Bonjour Mathieu, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Bonjour, donc je m'appelle Mathieu Epp et je suis conteur.
Ça fait longtemps que tu es conteur ?
Une quinzaine d'années maintenant, ouais.
Donc le spectacle d'aujourd'hui, c'était plutôt en vue d'un public un petit peu plus jeune. C'était une séance un petit peu spéciale par rapport à ce qu'il y a eu dimanche dernier pendant la sieste numérique.
C'est une proposition qui est vraiment différente, ouais, parce que la sieste numérique, déjà, c'était l'idée que les gens soient couchés, de les mettre dans un état de sieste. Et puis c'était davantage des adultes, même s'il y avait quelques enfants avec eux. Là, c'était un public qui était constitué d'un groupe d'enfants entre 7 ans et 12 ans. Et la proposition, au départ, est plutôt adaptée à des adolescents adultes à partir de 10 ans. Donc, j'ai adapté le spectacle en fonction du public qui était là, à la fois dans la façon de raconter et puis dans le choix des histoires. Et c'est un des aspects dans ma pratique qui m'intéresse le plus, c'est comment le propos est reformulé en fonction des gens qui sont là, puisque je ne suis pas attaché à un texte qui a été déposé par un auteur. C'est toujours un beau défi de voir comment on peut faire revivre ces histoires en fonction de ce qu'on a préparé à l'avance, mais aussi en fonction des gens qui sont là et de comment on essaye de les faire sonner ensemble, à la fois la proposition et le public et le lieu.
Qu'est-ce qui t'a donné idée de mélanger le conte avec une musique un petit peu plus moderne, hein, avec de la musique que tu transformes au biais de tes appareils ?
En fait, moi, ça me semble assez évident. C'est-à-dire qu'on va souvent associer le conte à quelque chose qui est ancien, parce que les histoires sont anciennes, et auquel cas, il faudrait des instruments acoustiques anciens. Mais il y a quand même un moment où ces instruments acoustiques anciens étaient modernes, contemporains. Donc, moi, ce qui m'intéresse là dans la musique électronique, c'est qu'elle permet d'atteindre des sonorités on ne peut pas forcément avoir avec des instruments acoustiques, qu'elle permet la polyphonie, la superposition, les couches, etc. C'est-à-dire qu'elle permet de composer d'une manière inatteignable, quasiment quand on est tout seul. Et c'est pour ça que j'alterne dans les histoires le tambour et une voix qui est un mode un peu celle de l'aède, du parler chanté, une espèce de poésie rythmée et tonalisée. Et puis de la musique électronique avec des matières, des nappes, des choses synthétiques. Pour moi, les deux peuvent fonctionner et nourrir les histoires, dialoguer avec les histoires en tout cas.
Et comment tu as abordé le thème du festival, aux frontières du vivant ?
Ben, en même temps, je suis aussi en résidence numérique avec le Hublot pour un projet autour du jeu vidéo. Et moi, de toute façon, dans ce projet-là, je travaillais autour de la mythologie nordique. Et donc là, dans le choix des histoires, c'est-à-dire ce qu'on a proposé dimanche, dans la sieste, c'était une cosmogonie nordique, donc une création du monde, et puis que j'ai reproduite là aussi en partie. Et dimanche prochain, donc ce dimanche, ce sera autour de la cosmogonie grecque. Donc le rapport avec le vivant, il est évident dans certaines histoires de la mythologie sur les créations du monde. Et puis il y a la question aussi de la parole qui prend chair, la parole symbole, signe, etc., etc. Donc on peut assez facilement trouver des liens.
Est-ce que ça t'inspire aussi ce qui se passe dans le monde actuellement, le retour à la nature, aux valeurs un petit peu plus anciennes, pour lutter contre l'industrialisation à outrance, par exemple les dérives numériques aussi, avec tout le monde connecté avec, par exemple, des écrans partout ?
Je ne sais pas, parce que c'est une question qui est, enfin, un sujet qui est vraiment large. J'ai fait il y a quelques années une conférence spectacle sur les jeux vidéo en réseau, parce que je remarquais que dans le discours ambiant médiatique, on affublait les jeux vidéo souvent des mêmes critiques, une addiction, un rapport à la violence, etc., etc., qui statistiquement en fait est quasi inexistant. Même si maintenant le phénomène d'addiction est soigné dans certaines cliniques. Mais par exemple, j'écoutais une émission vraiment intéressante sur un des dirigeants de ce type de clinique qui disait, on parle de l'addiction aux jeux vidéo, mais l'addiction au sexe dans nos sociétés est bien plus importante et on n'en parle pas du tout. Et quand j'avais fait cette conférence spectacle, c'était justement pour sortir de l'ornière communément appelée les dangers du virtuel. Je sens que le réel est très dangereux aussi, il y a beaucoup de gens qui meurent, hein, plus que dans le virtuel. Donc, essayer de petit à petit déconstruire ce cliché et de questionner autrement ce que seraient les dangers du virtuel ou du jeu vidéo en réseau, et du coup plus largement ça questionne notre société contemporaine, le système de compétition à outrance et permanente qu'on va retrouver dans les jeux vidéo, le fait que ce soit des entreprises qui maintenant décident de notre avenir et que ce soit plus de moins en moins les nations, enfin, du coup elles ne sont plus soumises au vote populaire, etc., malgré toutes les critiques qu'on peut faire à notre démocratie actuelle, l'entreprise fonctionne quand même autrement. Et voilà, donc c'est évidemment des questions qui m'intéressent, mais je suis souvent surpris et déçu de la manière dont elles sont abordées dans les grands médias, parce que c'est un peu toujours les mêmes totems qu'on secoue, alors qu'il y a des choses, il me semble, vraiment inquiétantes ou qui mériteraient d'être discutées, qui ne le sont pas.
Et à ton avis, quelle est la place du conte, justement, dans un monde où on est submergé d'images? On a besoin d'un retour aussi à la parole pure, ou un petit peu plus simplifié, sans avoir des effets spéciaux, par exemple pour raconter l'histoire des dieux nordiques, alors qu'une parole humaine peut être aussi importante. Comment tu vois le conte revenir dans nos vies, en fait?
Là aussi, c'est assez complexe, parce qu'en fait, si on regarde les youtubeurs, ils font de l'oralité. Enfin, ils font la même chose que moi. Ils racontent des trucs dans un sentiment de proximité qui est construit, hein. Norman fait semblant d'être dans sa chambre alors qu'en fait il y a une énorme équipe de production autour, mais au départ c'était un peu ça. Donc on a l'impression, en regardant les youtubeurs, qu'ils s'adressent à nous. Donc ce lien de la parole, il est là, et c'est une parole qui est vivante. Après, elle est enregistrée, ça se passe à distance, c'est pas la même chose que d'être réunis pour écouter quelqu'un, mais il y a quand même quelque chose qui se passe là. Après, dans ce qu'ils disent, c'est clairement pas du conte merveilleux, de la mythologie ou ce répertoire là c'est d'autres choses. Après, il y aurait plusieurs choses à distinguer. Il y a le moment où on se réunit pour raconter des histoires ou jouer un spectacle ou danser ou faire de la musique ensemble. Donc cette question de la coprésence qui, il me semble, quand même regagne quelque peu en valeur parce que maintenant on est très connecté, enfin à distance. Donc peut-être qu'on va y retrouver une importance. Mais après, sur la question de la parole, pour moi, la parole écoutée, la parole du disque, enfin, quand on était petit, on écoutait des histoires dans des cassettes ou dans des disques, et elle remplit aussi une fonction. Et il faudrait un peu distinguer ces fonctions, et est-ce que finalement, une histoire qui est entendue à la radio, est-ce qu'elle n'a pas aussi un impact par rapport à une histoire qui est partagée en direct? Et le corollaire, c'est là-dessus où je suis un peu critique par rapport à ma propre discipline et à mon travail, c'est que le spectacle vivant, le système du spectacle vivant maintenant invite à la création d'œuvres qui sont reproduites d'un lieu à l'autre. C'est-à-dire on reproduit exactement la même chose dans les conditions où elles ont été vues par l'acheteur du spectacle. Et donc effectivement, il y a une coprésence puisqu'on est là physiquement ensemble, mais est-ce que vraiment on tient compte des gens qui sont là? Est-ce que vraiment on adapte son discours ou est-ce qu'on fait semblant? Et moi, en tant que spectateur, des fois, j'ai l'impression que si je suis là ou pas, le spectacle va se dérouler de la même façon. Donc, qu'est-ce qu'on appelle coprésence? Et peut-être que là, il y a un risque, en poussant un peu le bouchon, j'ai envie de dire, le jour où les hologrammes seront vraiment bien développés, peu chers, pourquoi est-ce que j'irais aller au théâtre? Enfin, pourquoi est-ce que j'irais prendre le métro, machin, la pluie, le risque de glisser, de rencontrer des gens? Alors que je pourrais voir la même chose chez moi, dans mon canapé, dans quasiment les mêmes conditions. Et c'est ce quasiment qui est intéressant, quoi. Quasiment, qu'est-ce que ça définit? Et je pense que souvent, entre collègues, on a tendance à se sentir investi d'une mission ou de défendre quelque chose. Et on oublie peut-être parfois qu'il y a aussi un système de diffusion qui fait qu'on n'est pas totalement pur. J'aime pas trop le mot pureté, mais de ce côté-là, on pourrait aussi peut-être davantage réfléchir à ce qu'on fait quand on se réunit devant une audience.
Pour finir avec l'audience, est-ce qu'il y a des personnes qui dorment pendant les siestes numériques?
Dimanche, il y a des gens qui se sont un petit peu endormis, ouais. Après, pour moi, c'est ambivalent aussi, parce qu'on attend d'un spectacle qui nous stimule, qui nous émerveille, et quand les gens s'endorment, on peut penser que c'est un échec, qu'ils s'ennuient, ou voilà. Mais en tout cas, pour le conte, pour moi, c'est pas un signe d'échec ou c'est pas outrageant que quelqu'un s'endorme. Au contraire, on écoute d'une autre façon. Et puis, dans le temps, les spectacles de conte pouvaient durer une nuit et donc les gens s'endormaient, se levaient, revenaient, mangeaient, repartaient. Voilà. On a pas le même rapport au spectacle maintenant, ça s'est construit autrement. Et c'est vrai que le sommeil, l'endormissement ne fait pas partie de ce qu'on, ce qu'on vise habituellement, ou alors dans des occasions spéciales, ou dans des lieux un peu huppés, pour vivre une expérience particulière. Mais
peut-être qu'ils continuent le spectacle dans leurs rêves ?
Oui, puis on entend quand on dort, enfin on est touché par les vibrations, et c'est bien. Enfin, moi des fois je m'endors pendant un concert, et c'est souvent des très bonnes siestes.